VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 11 octobre 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Burkina Faso, ouverture du procès des auteurs présumés de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. L'affaire a été renvoyée au 25 octobre. En Tunisie, un nouveau gouvernement a été nommé après l'éviction du précédent cabinet par le président Kais Saied. Les renseignements irakiens affirment avoir capturé en Turquie un djihadiste recherché par les États-Unis. Nous ferons le point sur les progrès médicaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. 34 ans après l'assassinat de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, le procès des auteurs présumés a débuté ce lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou avant d'être renvoyé au 25 octobre. Le point avec Abdourahmane Dia.
Deux avocats commis d'office de la défense avaient demandé un report du procès d'un mois au nom de la manifestation de la vérité, arguant avoir eu trop peu de temps pour étudier les 20 000 pièces du dossier. Le président du tribunal militaire de Ouagadougou, Urbain Meda, a accepté leur requête, mais a suspendu les débats pour seulement 2 semaines. « C'est un jour de vérité pour moi, ma famille et tous les Burkinabés », avait déclaré dans la matinée la veuve de Thomas Sankara, Mariam, présente à l'ouverture de ce procès très attendu par les familles des victimes du putsch de 1987. Le principal accusé, Blaise Compaoré, ancien compagnon de Thomas Sankara, n'était pas présent lundi matin devant le tribunal. Porté au pouvoir par le coup d'État de 1987 et renversé par une insurrection populaire en 2014, Blaise Compaoré, 70 ans, vit présentement en Côte d'Ivoire. Ses avocats avaient dénoncé un procès politique devant une juridiction d'exception. 12 des 14 accusés sont toutefois présents pour ce procès qui se tient sous haute surveillance. Parmi eux, le général Gilbert Diendéré, 61 ans, qui purge déjà au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015.
Au Nigeria, la police a averti qu'elle empêcherait toute manifestation à Lagos pour marquer l'anniversaire du mouvement de contestation contre la violence policière. Le préfet de police de Lagos, Hakim Odumosu, a affirmé avoir reçu des renseignements concernant des projets de la part de certains jeunes de se lancer dans une manifestation aujourd'hui et a mis en garde ceux qui en auraient l'intention. Au Libéria, 2 hommes ont été arrêtés pour avoir tué 2 éléphants, a annoncé le parc national forestier de Wologhizi, précisant que les cadavres des éléphants ont été découverts avec leur défense encore intacte dans le nord du comté de Lofa au début du mois. Un 3e suspect est en fuite. L'espèce est menacée d'extinction dans le pays où il en resterait moins de 400 selon l'ONG El Reco. La Tunisie s'est dotée d'un nouveau gouvernement en semaine après l'éviction du précédent cabinet par le président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le nouveau gouvernement tunisien compte 25 membres dont 9 femmes. Seuls 2 ministres, ceux des Affaires étrangères, Othman Djarandi, et de l'éducation, Fethi Selouati, sont des rescapés de l'ancien exécutif. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le gouvernement est dirigé par une femme, l'universitaire Najla Bouden, nommée le 29 septembre. Elle a affirmé que la lutte contre la corruption est son plus important objectif. La Tunisie fait face à une crise économique et sociale aggravée par la pandémie de Covid et le taux de chômage s'élève à près de 18%. D'après la première ministre, son équipe va œuvrer à redonner aux Tunisiens confiance en l'État et améliorer leurs conditions de vie. Hier, à l'appel de différentes formations d'opposition dont le parti d'inspiration islamiste ENADA, au moins 6000 personnes ont manifesté à Tunis contre les mesures d'exception décidées par le président Saïd. Le chef de l'État s'est engagé à jeter dans les prochains jours les bases d'un dialogue national destiné à sortir le pays de la crise.
En Libye, le Parlement a adopté une loi octroyant une aide d'environ 10 000 dollars à chaque famille, 2 mois après que le gouvernement rival de Tripoli a décidé d'octroyer un subside aux jeunes couples alors que se profilent des élections en fin d'année. La Chambre des représentants qui siège à Tobrouk a annoncé le vote à l'unanimité de cette aide de 50 000 dinars, sans préciser les raisons ayant motivé le projet de loi adopté ni la date de son application. Au Zimbabwe, un convoi transportant le chef du principal parti d'opposition, Nelson Chamisa, a été attaqué ce lundi par des partisans présumés du parti au pouvoir. Des membres de sa sécurité ont été blessés et hospitalisés selon le MDC. Monsieur Chamisa se rendait à une réunion avec des dirigeants communautaires dans la région de Masvingo, dans le sud du pays, lorsqu'une foule a barricadé la route. 200 villageois soupçonnés d'avoir été mobilisés par la ZANU-PF ont alors lancé des pierres sur le convoi, selon le parti d'opposition. Le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, a qualifié l'attaque de mise en scène.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les services de renseignement irakiens affirment avoir capturé lors d'une opération en Turquie un leader du groupe État islamique, Sami Jassim al-Jabouri, recherché par les États-Unis. Il est présenté comme un responsable financier de l'organisation djihadiste. Jacques Aristide nous en dit plus.
Washington offre une récompense de 5 millions de dollars pour toute information concernant Sami Jassim al-Jabouri, qui a joué un rôle essentiel dans la gestion des finances du groupe État islamique, d'après un programme antiterrorisme du département d'État américain. L'homme a été capturé hors des frontières d'Irak, d'après le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi. Pour sa part, un haut responsable militaire irakien a précisé que Sami Jassim al-Jabouri avait été interpellé en Turquie. Son arrestation a coïncidé avec les législatives anticipées d'hier en Irak. La Turquie n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations. Sami Jassim al-Jabouri a été adjoint de l'ancien chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Il est considéré comme l'un des plus recherchés au niveau international et il est proche de l'actuel chef de l'organisation djihadiste Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, selon un communiqué des forces de sécurité irakiennes. Il est présenté comme le superviseur des dossiers financiers et économiques de l'EI. En septembre 2015, le Trésor américain l'a inscrit sur sa liste de terroristes visés par des sanctions.
Le laboratoire Merck a annoncé avoir déposé une demande d'autorisation auprès des autorités américaines pour sa pilule contre la COVID-19. De son côté, AstraZeneca affirme progresser dans ses efforts en vue de mettre au point un traitement. Les détails avec Rosine Mounezero.
La demande de Merck concerne son médicament baptisé Molnupiravir, destiné au traitement des patients adultes atteints de formes légères à modérées de COVID-19 et risquant d'évoluer vers des formes sévères ou une hospitalisation, a déclaré la société dans un communiqué. Dans le même registre, AstraZeneca a fait savoir ce lundi qu'un cocktail d'anticorps testé sur des patients contaminés et jugés à haut risque de contracter des formes sévères de COVID-19 a donné des résultats jugés positifs en essai clinique de phase 3. Selon un bilan établi lundi à partir des sources officielles, la pandémie a fait plus de 4 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 700 000 décès, suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et la Russie. L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé.
Législative en Irak, le courant du leader chiite Muqtada al-Sadr s'est revendiqué première force au Parlement avec plus de 70 sièges sur 329. Un responsable de la commission électorale a indiqué que le courant sadriste était effectivement en tête selon des résultats préliminaires. Le taux de participation a atteint 41%, une abstention plus forte qu'en 2018. En Allemagne, le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel, battu aux législatives, a annoncé qu'il va renouveler sa direction. La CDU, tombée sous la barre des 30%, ne peut pas revenir aux affaires courantes sans tirer des conclusions, a dit le secrétaire général du parti, Paul Ziemiak. Son président, Armin Laschet, a annoncé récemment qu'il était prêt à s'effacer à l'occasion d'un prochain congrès. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'Algérie n'a pas encore pris de décision définitive sur la reconduction d'un contrat d'utilisation d'un gazoduc passant par le Maroc qui doit expirer le 31 octobre et qui dessert aussi l'Europe via le territoire marocain. Depuis 1996, l'Algérie utilise le gazoduc Gaz Maghreb Europe. En contrepartie, Rabat reçoit annuellement près d'un milliard de mètres cubes de gaz naturel, soit 97% de ses besoins. Mais ce contrat est menacé par l'escalade des tensions entre Alger et Rabat. Selon l'Algérie, toutes les livraisons de son gaz à l'Espagne se feront désormais via le gazoduc sous-marin Medgaz, qui opère déjà au maximum de sa capacité de 8 milliards de mètres cubes par an. Au Burkina Faso, le label Thomas Sankara devient un business florissant. Ces gadgets, à forte valeur sentimentale, s'arrachent comme des petits pains. Pour certains jeunes, boire dans une tasse à l'effigie de Sankara, c'est comme se nourrir de ses idéaux au quotidien. La statue géante du panafricaniste, érigée sur le site du mémorial à l'endroit où il fut tué, fait l'objet de toutes les attractions, faisant de ce lieu le plus visité des sites touristiques dans le pays, avec une moyenne de 8000 visiteurs par mois. Terminons par le Zimbabwe, où 6 Chinois et 2 Zimbabwéens ont été tués dans des explosions de gaz dans une mine de nickel dans le nord du pays. Des réservoirs d'oxygène ont explosé dans la mine de la région de Mazowe.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Football avec la suite des matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique. Le Gabon tient sa première victoire dans ses qualifications grâce à son succès 2-0. Lors de la réception de l'Angola aujourd'hui, le Cameroun s'est imposé 1-0 devant le Mozambique et la Côte d'Ivoire a eu raison du Malawi 2-1. Les Ivoiriens conservent donc la tête du groupe D. Le Burkina Faso a eu raison de Djibouti 2-0. À suivre aussi ce soir, Égypte-Libye. Le week-end, les Aigles de Carthage, qui étaient sur une bonne série de 3 victoires, ont été accrochés à Nouakchott par la Mauritanie 0-0. De son côté, le Nigeria s'est repris face aux Centrafricains qui l'ont battu il y a 3 jours. Les coéquipiers de Victor Osimhen, buteur, ont battu les Fauves du Bazoubangui 2-0. Le Bénin a raté l'occasion de prendre le large dans le groupe J. La faute à un revers concédé à domicile 0-1 devant la Tanzanie. Déçu, le sélectionneur des écureuils reste tout de même confiant pour la suite.
On a fait une entame de match catastrophique. On espérait engranger 3 points, même si on savait que cette équipe de Tanzanie, elle a beaucoup de qualité. Maintenant, il faut se replonger sur les 2 prochaines journées. Après, voilà, je sais que le public est déçu, c'est normal, c'est légitime. Ça fait longtemps que le Bénin n'a pas perdu au stade de l'amitié.
Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin. Le sans-faute continue pour le Sénégal et le Maroc en attendant leur 4e match prévu demain mardi. Le Sénégal vainqueur 4-1 de la Namibie à Thiès signe sa 3e victoire de rang dans la poule H, ce qui réjouit Bouna Sarr qui est à ses débuts avec les Lions de la Teranga.
L'adaptation, l'environnement, c'est vrai que c'est un premier match pour moi en compétition officielle. C'est vrai qu'il fait très chaud, c'est pas évident. Il a aussi fallu que je prenne mes repères. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui se sont dites par rapport à ma venue au Sénégal, on va pas se le cacher. Moi, il n'y a qu'une chose sur laquelle je me concentre, c'est le terrain.
Bouna Sarr, joueur du Sénégal. 3e victoire également en autant de matchs pour le Maroc. Cette fois-ci, 3-0 face à la Guinée-Bissau. Les Lions de l'Atlas joueront demain leur match en retard contre la Guinée. Athlétisme, le Kenyan Benson Kipruto a remporté ce lundi le marathon de Boston en 2h09:51 pour la 125e édition de la course. Arrivé en solitaire, Kipruto a décroché à 30 ans sa première victoire sur un marathon majeur. Il a devancé les Éthiopiens Lemi Beranu et Jemal Yimei. Chez les dames, la Kenyane Diana Chemtei Chipyoge s'est imposée en 2h24:45 devant ses compatriotes Edna Kiplaga et Marie Ngugi. Le marathon de Boston n'a pas eu lieu depuis avril 2019, après une annulation en 2020, puis un report au printemps en raison de la pandémie de Covid-19.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, les leaders de la coordination des actions citoyennes Wakit Tama se disent victimes d'une cabale judiciaire. Ils assurent que leur mouvement lutte contre le risque de confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition. Une marche pacifique a été violemment réprimée le week-end dernier dans la capitale. Le siège du parti Les Transformateurs a été perquisitionné et certains de ses dirigeants ont été convoqués ce lundi à la police judiciaire. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Faisant le bilan des marches pacifiques du 2 et du 9 octobre autorisées puis réprimées pour non-respect d'itinéraires indiqués par les autorités de transition, le responsable de la coordination des actions citoyennes Wakit Tama affirme qu'il y a eu au total 58 blessés nommément enregistrés et une trentaine d'arrestations. Dans la matinée du 10 octobre 2021, la police nationale a perquisitionné le siège du parti Les Transformateurs. Le président du dit parti et quelques militants qui se trouvaient au siège ont été brutalisés et séquestrés pendant toute la matinée du 10 octobre.
Ce qui est rocambolesque, c'est que cela se fasse un dimanche matin à 6h avec des motifs qui ne sont pas écrits dans le document et l'objet qu'ils ont indiqué oralement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fini par ramener les preuves des exactions qui ont été commises sur le siège parce que les centaines de douilles des bombes lacrymogènes qu'ils ont tirées sur nous, ils ont emporté tous les 5 seaux remplis de ces douilles-là.
Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. Pour le constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux Ahmad Mohamed Hassan, l'acte posé par la police ne se justifie pas.
J'étais désolé d'écouter que c'est sur perquisition du procureur de la République que son siège a été perquisitionné, or que dans le papier, il s'agit de son domicile. C'est un harcèlement total et je crois que ça dénote d'une certaine pertinence et d'une certaine peur que fait le leader politique Massa Succès au gouvernement de transition.
Pour Ahmad Mohamed Hassan, la police a fait une mauvaise interprétation des textes.
La perquisition est une procédure d'information qui consiste d'abord à qualifier l'infraction reprochée à l'individu et il est écouté par le procureur de la République inculpé d'une infraction donnée et c'est au procureur ou au juge d'instruction pour la révélation de la vérité s'il trouve qu'il y a une complexité. C'est en ce moment qu'il signe un document qui devient un moyen de recherche de vérité seulement. Quelle infraction lui reproche et le domicile prévu, on informe la personne d'abord. Il y a des heures précises par le code de procédure pénale tchadien depuis 1967 qu'on n'arrive pas avant 7 heures et on n'entre pas dans le domicile de quelqu'un après 19 heures.
Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, qualifie la perquisition de son siège d'intimidation qui n'entamera en rien sa détermination pour un Tchad réconcilié.
On va dépenser des milliards pour aller démarcher les politico-militaires pour rentrer. Les Tchadiens qui sont sans armes, qui veulent dialoguer et qui proposent des conditions d'un meilleur dialogue pour permettre au Tchad de sortir de ces 60 années de recommencement et d'éternel recommencement. Et donc l'intimidation, la terreur ne sera plus suffisante. Nous devons arriver à un Tchad où l'urne du peuple est plus puissante que l'arme de quelques groupes d'individus qui en réalité ne représentent même pas 1% de la population. Et donc c'est ceux-là qui doivent revenir à la raison. Voilà notre état d'esprit.
Les trois porte-parole de Wakit Tama, convoqués ce lundi, ont passé toute la journée à la police judiciaire sans être situés sur l'infraction retenue contre eux. De la perquisition à l'interpellation des leaders de Wakit Tama, les responsables de la police ne veulent pas communiquer pour l'instant. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ouvert ce lundi matin au tribunal militaire de Ouagadougou, le procès des assassins présumés de l'ex-président Thomas Sankara, mort en 1987, a été renvoyé au 25 octobre à la demande des avocats de la défense. Yacouba Ouedraogo, adjoint à Ouagadougou, Prosper Farama, avocat de la partie civile.
C'est un grand sentiment de soulagement et puis aussi, on va dire, pour nous, c'est un grand pas. Non, c'est, si vous voulez, même une sorte de victoire partielle dans le cadre de cette affaire, parce que très peu de personnes au Burkina, et peut-être partout ailleurs, s'imaginaient que le président déchu de son pouvoir aurait pu être jugé par la justice de son pays pour ces faits. Donc nous sommes aujourd'hui non seulement satisfaits, on est soulagé.
Aussitôt ouvert, aussitôt suspendu, on va dire, pourquoi les avocats de la défense ont demandé à ce que le procès soit remis à plus tard?
Simplement parce que certains d'entre eux commis d'office ont reçu, disent-ils, le dossier assez tardivement. Vu le volume de pièces que contenait le dossier, ils n'ont pas eu un temps suffisant pour préparer la défense de leur client. Mais d'ailleurs, à cette requête, nous sommes loin pour dire que nous attachons un grand prix à ce que ce procès respecte les valeurs des cités, qui inclut donc le respect des droits de la défense, et que si effectivement ces personnes, ces avocats n'avaient pas reçu les pièces dans les délais, nous consentions nous aussi à ce qu'un délai raisonnable leur soit accordé, afin que nous revenions pour ce combat à armes égales. Et c'est pour cela que le tribunal leur a concédé 2 semaines afin de pouvoir affûter la préparation de la défense de leurs clients.
Alors, vous qui êtes dans le secret de tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez avoir suffisamment d'éléments pour qu'enfin la vérité éclate sur cette affaire du 15 octobre 1987?
Ben absolument, sinon nous aurions quitté le dossier, depuis vous rassurer. Nous estimons que de ce que nous savons du dossier et de ce que ce procès révélera, je crois qu'on s'apercevra bien qu'on a suffisamment d'éléments, malgré quelquefois le manque de coopération de certains accusés, malgré la fuite des 2 accusés principaux, on s'apercevra, disais-je, donc qu'il y a suffisamment d'éléments pour établir la culpabilité des personnes qui sont poursuivies. Nous n'avons aucun doute sur cette affaire.
Ah, justement, vous parlez de la fuite de 2 principaux accusés. Sans doute Blaise Compaoré, actuellement en Côte d'Ivoire, il y a 5 Cafando qui faisaient partie du commando en fuite. Cela n'entamera en rien le processus.
Nous aurions souhaité qu'il soit présent. Comme nous avons dit, nous sommes dans un combat où nous aurions souhaité nous battre à main égale. Même si nous voulons la vérité et la justice, mais nous ne plaidons pas pour la vengeance. Donc nous aurions souhaité qu'il soit là, en personne, qu'ils aient l'occasion, dans le respect de leurs droits intimes, de se défendre et de donner leur part de vérité dans le cadre de cette affaire.
Prosper Farama, avocat de la partie civile, était joint à Ouagadougou. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Résurgence du virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cas de la fièvre hémorragique a été confirmé à Boutsili, dans la zone de santé de Beni, dans la province du Nord Kivu, selon le ministère de la Santé. Cette situation survient 5 mois après la fin officiellement déclarée de la 12e épidémie de la maladie dans le pays. Un récit de Nani Talani.
Le cas concerne un enfant de 3 ans de sexe masculin qui a été hospitalisé avant de décéder le 6 octobre dernier. Un prélèvement effectué sur l'enfant a été envoyé pour analyse à Goma, chef-lieu de la province, et s'est révélé positif au virus Ebola. Après ce décès, les habitants de la ville de Beni vivent dans la crainte d'une nouvelle propagation du virus. Golbert Mawa, préfet de l'école Beni International School.
Sûrement, une crainte doit exister parce que on savait depuis lors que Ebola a disparu. On ne pouvait plus penser que cela pouvait encore surgir. C'est pourquoi j'exprime ma crainte, bien sûr.
Les habitants de Beni n'ont pas encore oublié l'horreur de 2018-2020 quand le virus avait infecté 3 470 personnes et fait 2 287 décès. C'était la 2e épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée et la ville de Beni, une plaque tournante commerciale, en était l'un des épicentres. La population a encore aussi présente à l'esprit la flambée d'Ebola qui a fait 6 morts cette année, même si on ne sait pas encore si le cas du petit garçon est lié à ces événements. Angui Kakoulé est cultivateur à Beni.
Nous avons eu quand même à Beni un grand nombre de morts. C'est la raison pour laquelle j'ai la crainte encore de cette apparition de morts.
Un rapport interne du laboratoire biomédical du Congo a indiqué que 3 des voisins du garçon dans le quartier de Boussili à Beni présentaient également des symptômes compatibles avec Ebola le mois dernier et sont décédés. Mais aucun n'a été testé. Dans un communiqué, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, indique qu'une 100aine de personnes susceptibles d'avoir été exposées au virus ont été identifiées et seront surveillées pour voir si elles développent des symptômes. Par ailleurs, les équipes sont aussi à pied d'œuvre sur le terrain pour assurer la décontamination des formations sanitaires et la sensibilisation. Angui Kakoulé a perdu des proches lors des précédentes épidémies. Il a intégré ses équipes pour prévenir d'autres décès dus au virus Ebola.
Il y avait au moins ma sœur qui avait perdu la vie avec ces maladies-là. C'est la raison pour laquelle moi aussi j'avais eu quand même quoi, les vaccins. Et je suis parmi ceux-là qui étaient en train de sensibiliser les gens par rapport à la prophylaxie de ces maladies-là.
Les autorités sanitaires de la province du Nord Kivu ont déjà pris la tête de la riposte avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. Grâce à l'expérience acquise dans la gestion du virus Ebola lors de précédentes épidémies, elles sont assurées que les équipes de riposte parviendront à contrôler cette épidémie dans les meilleurs délais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que le nombre de personnes infectées par le coronavirus est en baisse aux États-Unis, la vaccination obligatoire contre la COVID-19 est exigée pour de nombreux employés du pays, ce qui suscite des objections. Un reportage de Michel Quinn, le récit est de Jacques Aristide.
Il s'agit d'une étape qui était pratiquement inéluctable au moment où 76% d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Les dates butoirs approchent à grands pas dans les lieux de travail pour que les employés se fassent vacciner contre la maladie sous peine de perdre leur emploi. Une exigence qui a entraîné des grincements de dents chez certains travailleurs. À Los Angeles, le shérif a déclaré qu'il n'appliquerait pas l'obligation vaccinale émise par le comté pour ses 18 000 employés. Alex Villanueva, le shérif du comté de Los Angeles, lors d'une intervention sur Facebook Live.
Il y a des groupes entiers d'employés prêts à perdre leur emploi, à être mis à pied plutôt que de se faire vacciner. Je ne veux nullement perdre 5 à 10 % de mes effectifs du jour au lendemain à cause de l'obligation vaccinale.
Cette colère s'exprime tandis que le nombre quotidien d'infections COVID-19 est tombé à environ 95 000 nouveaux cas aux États-Unis. Le pic le plus récent remonte au mois dernier, qui a vu jusqu'à 172 000 cas par jour, d'après l'université Johns Hopkins. Au cours d'un entretien dans l'émission State of the Union de CNN, le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, a indiqué qu'il était optimiste quant à la trajectoire de la pandémie, mais qu'il était trop tôt pour lever les restrictions telles que le port du masque.
J'aimerais bien voir ce nombre en dessous de 10 000 cas et même bien moins que cela. Mais avec 95 000 cas, c'est une situation qui signifie que le virus continue de circuler à un rythme élevé.
Les autorités sanitaires américaines doivent se pencher d'ici à la fin de ce mois sur la demande d'autorisation du laboratoire Pfizer de son vaccin anti-Covid pour les enfants de 5 à 11 ans. Pfizer propose de leur administrer seulement un tiers de la dose normale. L'ancien patron de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, qui siège au conseil d'administration de Pfizer, a laissé entendre à Face the Nation de la chaîne CBS, qu'il faudrait encore quelques années pour envisager l'obligation vaccinale pour les écoliers.
Pour les 12-17 ans, cela pourrait arriver dans 2-3 ans, peut-être même un peu plus. Je pense que cela prendra encore plus de temps. Pour les 5 à 11 ans, vous allez obtenir plus de données avec ces enfants.
Pendant ce temps, l'administration Biden a promis 1 milliard de dollars pour l'achat de millions de tests rapides de COVID-19 à domicile, après des informations faisant état de pénurie de kits dans tout le pays. La Maison-Blanche affirme qu'elle disposera de 200 millions de kits par mois d'ici à la fin de l'année.
C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.